Il est 12h ici à Washington DC, 16h en temps universel. Eric Manila qui est avec vous. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Vous écoutez VOA Afrique. Les Tchadiens votent dimanche à la présidentielle. Le maréchal de président Idriss Déby Itno-Omring en sixième mandat qu'il est assuré de remporter face à six candidats. Les rares ténors d'une opposition divisée qui pouvait lui faire un peu d'ombre ont été écartés parfois violemment. Le véritable enjeu de ce scrutin reste la participation. Quelques 7,3 millions d'électeurs sur une population de 15 millions d'habitants sont appelés aux urnes. La frange de l'opposition la plus virulente a appelé au boycott du scrutin. Au pouvoir depuis 30 ans, le chef de l'État a voté aux côtés de son épouse Inda, omniprésente durant la campagne. Les Béninois votent également dimanche dans le calme et sans engouement pour élire leur président. Accusé de verrouiller le scrutin, le chef de l'État, Patrice Talon, sera seul face à lui-même, selon l'opposition. Il fait face à deux candidats quasiment inconnus du public, les anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Kouwe. M. Talon, qui brigue un second mandat, a assuré qu'il gagnerait ce scrutin par chaos en second tour. La campagne électorale a été marquée par des violences, notamment dans le centre-nord du pays, fief de l'ancien président Thomas Boniaï, où des manifestants avaient dressé d'importants barrages routiers. Le calme était revenu dimanche à Damasque, une ville du nord-est du Nigeria, où une attaque djihadiste contre des installations humanitaires a fait au moins 4 morts, selon de sources militaires et humanitaires. C'est la deuxième attaque à viser une des 9 bases humanitaires des Nations Unies dans ce pays en un peu plus de 2 mois. L'Ouganda, la Tanzanie et les compagnies pétrolières françaises, Total et chinoises, Sinoc, ont signé dimanche plusieurs accords ouvrant la voie à la construction de l'oléoduc qui transportera le futur brut ougandais vers un port tanzanien sur l'océan Indien. Au moins 4 migrants ont été retrouvés morts dimanche au large de l'archipel espagnol des Canaries dans une embarcation de fortune contenant 23 personnes, ont annoncé les autorités locales. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a mis en garde qu'il y aura des conséquences en cas d'agression russe en Ukraine. Il a exprimé l'inquiétude des États-Unis face au mouvement de troupes russes à la frontière ukrainienne. M. Blinken a aussi mis en garde une Chine de plus en plus agressive contre toute tentative de changer le statu quo autour de Taïwan, affirmant qu'il s'agirait d'une grave erreur. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, est arrivé dimanche en Israël pour discuter du dossier du nucléaire iranien. Première visite d'un haut responsable de l'administration du président Joe Biden dans l'État hébreu. M. Austin a été accueilli par son homologue israélien Benny Gantz au ministère de la Défense à Tel Aviv, peu de temps après avoir atterri. Le décès 2 mois avant ses 100 ans du prince Philippe laisse un grand vide dans la vie de son épouse depuis 73 ans. La reine Elisabeth II a rapporté leur fils Andrew à l'issue d'une messe commémorative dimanche. Celui qui était devenu le patriarche de la famille royale, un homme réputé pour son fort caractère, son franc-parler, mais aussi son dévouement à la reine et au pays, s'est éteint paisiblement vendredi au château de Windsor, à l'ouest de Londres. La reine a décrit cela comme un grand vide dans sa vie, a déclaré Andrew, interrogé par les télévisions britanniques, à l'issue d'une messe à Windsor. L'Union européenne s'est dite préoccupée par la perquisition mené vendredi au domicile du rédacteur en chef d'un média d'investigation indépendant, iStories, en Russie. Roman Anin a mené de nombreuses enquêtes journalistiques sur la criminalité organisée et la corruption en Russie. Le journal en ligne avait indiqué vendredi que l'appartement de M. Anin avait été fouillé par des agents des services de sécurité. Le porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a dénoncé une dégradation de la liberté de la presse dans le pays. Récemment, le jeune média d'investigation avait publié des articles sur de possibles liens entre un responsable du FSB et le crime organisé, ainsi que des articles sur la torture dans des prisons russes et la surveillance de l'opposant incarcéré Alexei Navalny par les services de sécurité. Les opposants au putsch militaire ont continué de manifester dimanche en Birmanie, malgré la répression des forces de sécurité qui a fait plus de 700 morts civiles depuis le coup d'État du 1er février, tandis que l'Union européenne accuse la Russie et la Chine de bloquer tout.